Alors nous sommes arrivés au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible, le livre de la fin, de la révélation de Jésus-Christ à la fin. C'est la fin de l'histoire et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle finit bien pour ceux qui sont avec Christ. Mais il faut reconnaître qu'elle finit mal pour ceux qui le rejettent, ceux qui se rebellent, ceux qui ne l'acceptent pas. Et ça fait partie de la justice de Dieu de sauver ceux qui croient et de condamner ceux qui le rejettent. Parce que Dieu est le Créateur, il est le seul juge. On ne peut pas vivre sans Dieu, même si on est complètement athée, Dieu est là et on aura des comptes à lui rendre. C'est quelque chose qui est que les Français ont beaucoup de mal à accepter. Nous avons été éduqués dans un esprit rebelle. Avec notre histoire catholique, nous avons développé aussi une sorte de rejet de ce Dieu vengeur, un petit peu, de ce Dieu juge. Mais Dieu n'est pas un Dieu vengeur, il est un Dieu juste. Il est aussi un Dieu miséricordieux qui patiente et patiente et patiente. Il retient son jugement pour que tous aient une chance de le connaître et de se repentir. Mais au chapitre 4 arrive la mise en place, on peut dire, du tribunal céleste pour juger le monde. Et je vais lire donc dans les premiers versets. « Après cela, écrit l'apôtre Jean, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. » La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore, devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Je m'arrête là dans la lecture. Ce que Jean voit à ce moment-là, c'est le ciel. C'est le trône de Dieu installé dans le ciel. Il voit Dieu même, sauf qu'on ne peut pas voir Dieu puisqu'il est esprit, il n'a pas une apparence physique, donc il voit, comme il dit, quelqu'un qui avait l'air d'une pierre de jaspe et de sardoine. On va décrire un peu cela. Je vais demander toute votre attention parce que tout cela n'est pas facile à expliquer. Vous savez, l'Apocalypse est un des livres les plus difficiles de la Bible. Et pour bien le comprendre, il faut connaître le reste de la Bible et je vais donc faire allusion à d'autres passages dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui expliquent la Bible. L'apôtre Pierre nous a mis en garde de ne pas interpréter la prophétie n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'il y a des symboles qu'il faut leur faire dire n'importe quoi, ce qui nous passe par la tête ou ce qu'on veut leur faire dire. Chaque symbole dans la Bible a une raison et un parallèle, souvent, dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous vous rappelez quel est le livre de l'Ancien Testament qui est parallèle à l'Apocalypse? Le livre de Daniel, entre autres. Il commence donc, la voix dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite. » Dans la suite, donc, Jean est avancé dans le temps. Il est pris au ciel pour voir la suite des événements. Parce que Dieu, depuis le ciel, n'est pas dans le temps. Nous, tout ce qu'on peut voir, c'est le présent. Vous êtes d'accord avec moi? Le passé, eh bien, on le voit derrière notre dos, mais le futur, on ne le voit pas. Oh, on aimerait. Il y a des astrologues qui vous font croire qu'ils voient l'avenir, des voyants qui vous font croire qu'ils voient l'avenir, des pseudo-prophètes, mais il n'y a que Dieu qui voit l'avenir. et l'avenir est révélé dans sa parole. Et là, Jean est amené à voir le futur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce chapitre 4, l'Église n'est plus du tout mentionnée. Vous ne trouvez plus l'Église. Vous trouvez des saints, des gens qui croient, juifs et non-juifs, mais il n'y a plus de chrétiens et il n'y a plus d'Église. Comment cela se fait-il? C'est que dans le plan de Dieu, à partir de ce moment-là, d'un certain moment, l'Église n'est plus sur terre. Elle est enlevée dans le ciel. Et sur la terre restent les autres. Pourquoi cela? Parce que Dieu a dit qu'il jugerait premièrement son peuple et ensuite le reste du monde. Et nous voyons dans l'Épître aux Thessaloniciens au chapitre 4 qu'il va y avoir un événement extraordinaire, c'est que Jésus-Christ va revenir, descendre du ciel, et je vais vous lire au chapitre 4, verset 16, « Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ, c'est-à-dire tous les vrais chrétiens depuis la période de Jésus jusqu'à ce moment, ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants, donc les chrétiens vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Cette vérité-là est assez extraordinaire. C'est que le jour du jugement, le jour de la résurrection, tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, vont ressusciter. Et tous les chrétiens vivants à ce moment-là vont les rejoindre et être enlevés à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur va enlever tous ceux qui lui appartiennent. Il ne va laisser sur la terre que ceux qui, pour l'instant, n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et il va juger le monde qui reste. Et ce qui est frappant dans le livre de l'Apocalypse, c'est qu'il y a les chapitres 2 et 3 qui sont les lettres aux sept Église. Après, on ne parle plus de l'Église. Donc Dieu commence à juger, à sanctifier l'Église. Quand il a fini, il l'enlève et il va s'occuper du reste du monde. C'est cette Église. Sept, vous rappelez, c'est le chiffre de la plénitude, de la perfection, ce qui est complet. Et certains, et je suis d'accord avec eux, ont vu dans ces sept Églises l'histoire complète de l'Église, depuis la résurrection de Christ jusqu'à son retour. Il y a sept périodes dans l'histoire de l'Église, et c'est le grand historien anglais-américain Philip Schaff, qui est un des plus grands historiens de l'Église, qui est vécu et qui a écrit en 8 volumes une histoire complète de l'Église. Il dit, il y a la première Église, Éphèse, c'est l'Église des apôtres. Le premier siècle, après la résurrection, c'est cette église vivante, mais qui commence déjà à perdre son premier amour. Smyrne, c'est l'église persécutée par l'Empire romain. C'est les chrétiens qui souffrent beaucoup parce qu'ils sont persécutés de l'an 100, même avant, jusqu'à l'an 300. L'année 313, date où l'empereur romain édicte une tolérance pour le christianisme. Et puis l'église de Pergame, c'est l'église qui va commencer à s'éloigner de la Bible, l'église de Rome qui va grossir, devenir puissante et riche, tout en s'éloignant de plus en plus de l'église primitive et de la Bible. L'église de Thyatire, c'est l'église papale, à son apogée, à une certaine époque du Moyen-Âge, là aussi, entre 12 et 14e siècle, où la papauté est au-dessus des rois, où l'Église est très riche, mais vraiment très corrompue. Et puis, vous avez Sardes, c'est l'Église de la Réforme. Lorsque, au XVIe siècle, des chrétiens ont regardé à nouveau dans la Bible, ont redécouvert la Bible, parce que jusque-là, elle n'était qu'en latin et elle était rare. Et ils se sont mis à revenir à la Bible et à refaire l'Église telle qu'elle était dans la Bible. Et ça, c'est l'Église de Sardes. Et puis, l'église de Philadelphie, l'église fidèle, c'est celle qui est l'église des missions. Parce que à partir du 18e, 19e siècle, l'Église a commencé à envoyer des missionnaires dans le monde entier. Les premiers missionnaires étaient probablement les frères Moraves, qui sont partis dans des pays les plus reculés, et puis ils ont suscité cet engouement d'aller porter l'Évangile partout. Et on peut dire qu'aujourd'hui, quasiment 99% des tribus de la terre ont entendu l'Évangile. Et puis, il y a la dernière, Laodicée. Laodicée, c'est l'église de la fin des temps. C'est l'église tiède, l'église corrompue, encore une fois, apostate, qui est installée, mais qui a mis Jésus dehors. On n'a plus besoin de Jésus, on a tout le reste. On a la technologie, on a l'argent. Donc, à quoi ça sert d'avoir Jésus? C'est une église matérialiste, une église centrée sur l'homme, qui est une sorte de club social qui répond aux besoins des gens, mais qui ne révèle pas la parole de Dieu. C'est l'église œcuménique aussi, qui mélange tout, qui n'a plus de conviction biblique claire. C'est l'église de la confusion, qui va durer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais au son de la trompette de Dieu, Christ reviendra. Il ne prendra pas ceux qui sont de telle ou telle dénomination, hein. Pour Dieu, les dénominations n'ont aucun sens. Qu'est-ce que Dieu voit dans les vrais chrétiens? Il voit son sceau. Et son sceau, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Il dit que lorsque quelqu'un entend la bonne nouvelle de Jésus, que Jésus est mort pour nos péchés, et qu'il accepte cette bonne nouvelle, il est dit qu'il est scellé du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient sur cette personne et le scelle jusqu'à la fin des temps. C'est dans l'Épître aux Éphésiens que c'est écrit. Et ceux qui auront ce sceau seront enlevés, peu importe la dénomination. D'ailleurs, au verset 2 d'Apocalypse 4, Jean est saisi, hein, par l'Esprit. Il est pris en esprit, c'est-à-dire qu'il est amené, non pas dans son corps, mais dans son esprit, à voir des choses du ciel. Et ça fait penser à l'enlèvement, hein, quand même, cette idée-là. Jean, on lui dit « monte ici !» On ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle. « Monte ici !» et puis l'Église qui est enlevée, qui monte. C'est pour ça que nous croyons et nous sommes convaincus que le temps de jugement qui est appelé dans la Bible la grande tribulation ne sera pas pour l'Église. Et l'Église ne sera pas touchée par les jugements de Dieu parce que les vrais chrétiens seront sauvés. Par contre, dans l'Église, il y a des faux chrétiens. Il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau, il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils vont pourtant à l'Église tous les dimanches parfois. Ceux-là vont rester. Et si un jour c'était votre cas, je ne vous le souhaite pas, je souhaite que vous soyez sauvés avant. Mais si un jour vous appreniez qu'on est tous disparus, qu'on est tous partis, que vous restiez, rappelez-vous la parole de Dieu. Et Jean, qu'est-ce qu'il voit dans le ciel? Il dit, voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. Littéralement, là, il manque un mot. Un trône fut placé dans le ciel. C'est un petit peu comme si on installait un tribunal et le trône du jugement est placé dans le ciel et Dieu s'assoit dessus. C'est l'heure du jugement. Dans le psaume 9, nous lisons ces versets à partir du verset 7. Toute la Bible est une unité qui tend vers les mêmes choses. Il n'y a pas de contradiction interne. Psaume 9, verset 7, verset 8. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Vous avez vu le trône du jugement, mais ceux qui connaissent le nom de Dieu, ceux qui connaissent le Seigneur, ne seront pas jugés avec les autres. Ici, le trône du jugement est mis en place. C'est vraiment difficile pour nous d'accepter qu'il va y avoir un jugement universel. L'être humain veut être son propre Dieu. On veut se juger nous-mêmes. On veut dire, ben, c'est moi qui décide de ma vie, c'est moi qui forge ma conscience. J'appelle ça mal et j'appelle ça bien, et toi tu appelles ça bien, tu appelles ça mal. Chacun chez soi, tout ira bien. Mais ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. D'abord, dans nos sociétés, il y a un code pénal, un code civil, il y a des juges qui décident ce qui est bien et ce qui est mal au niveau de notre société. Mais au niveau de la conscience, d'où vient cette conscience que nous avons du bien et du mal? Certains disent que ça vient de la société, hein. On nous inculque le bien et le mal à l'école, à la maison, les parents, etc., la religion, l'église. Mais c'est absolument faux. Cette conscience, elle est là depuis le début. Lorsqu'on commet notre première bêtise, notre premier péché, sans qu'on nous ait dit quoi que ce soit, déjà on se sent coupable. Regardez comme un petit enfant, peut-être coquin. Je dis coquin, parce qu'un petit enfant n'est pas mauvais dans le sens, il ne fait pas du mal. Mais il est coquin, il peut manipuler ses parents, jouer un petit peu, mentir, sans qu'on lui ait appris quoi que ce soit. Le mal est naturel à l'homme, hein, à l'être humain malheureusement. Et la conscience, elle a été placée en nous par Dieu. Et cette conscience qui est là en nous, c'est vrai qu'on peut l'étouffer, on peut l'éteindre, on peut la tordre. On peut lui dire, mais non, ça finalement, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, tais-toi, arrête de me remuer là, laisse-moi tranquille. Et finalement, au bout d'un certain temps, la conscience peut être étouffée. Mais quand quelqu'un vit avec une conscience étouffée, je dis, c'est la pire des conditions qui soit. Quelqu'un qui n'a plus de remords. Devant les tribunaux, hein, régulièrement, il y a des gens comme ça. Aucun remords. Mais comment ça se fait que vous avez torturé et massacré cette personne? Ils s'en fichent. Ils ont scellé leur conscience. Mais cette conscience est là pour nous dire qu'il va y avoir un jugement. Pourquoi est-ce qu'on est retenu? Quand même, la plupart d'entre nous, heureusement, on se retient de faire certaines choses. Parce que ce n'est pas qu'on n'a pas les idées, on a des idées de faire du mal. Il y a des fois, on aura envie de prendre une grosse mitraillette et de mitrailler. Hein. Comme a dit quelqu'un, si j'avais un fusil et mitrailleur au bout du capot de ma voiture, il y aurait beaucoup de morts sur les routes. Hein. Quand quelqu'un me fait une queue de poisson, on ne met pas son clignotant, hop, un petit bouton à côté du volant, boum! Dans les jeux vidéo, hein, ça se fait facilement. Heureusement, dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Quoi qu'il y ait des gens qui tirent sur les autres, hein, notamment, ça, j'ai déjà vu ça en Corse. Pourquoi est-ce qu'on se retient? Pourquoi on ne fait pas tout ce qui nous passe par la tête? Puisque notre vie est courte. On a une petite vie très courte, alors faisons tout ce qui nous plaît, tout ce qu'on a envie de faire. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a notre conscience qui nous arrête. C'est vrai qu'il y a la société aussi, mais il y a notre conscience d'abord. Parce qu'il va y avoir un jugement après la mort. C'est ce qui fait le plus peur dans la mort. Ce n'est pas tellement de mourir. On peut mourir en s'endormant dans son lit. Mais ce qui fait peur, c'est ce qu'il y a après l'instant où on meurt. C'est ce jugement lorsqu'on va faire face à notre Créateur. Et là, c'est le jour du jugement, lorsque le Créateur s'assoit sur son trône. Et le monde entier va être jugé. Et Jean voit le Créateur lui-même, il le désigne sous la forme de deux pierres. Celui qui était assis était semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Le jaspe dans la Bible, en particulier dans la Bible, c'est une pierre qui brille en général, c'est un mot très général, une pierre qui brille comme un diamant qui reflète la lumière. La sardoine est très particulière, elle est de couleur rouge. Et en fait, ce que Jean est en train de nous décrire, c'est qu'il voit quelqu'un sur le trône, mais tout ce qu'il peut voir, c'est cette lumière extraordinaire, blanche et rouge. La blancheur, c'est la sainteté, et la rougeur, c'est le sang, c'est le rachat de nos péchés. C'est le sacrifice de Christ. Ce qui est étonnant avec ces deux pierres, c'est qu'elles parlent de Christ aussi, par rapport à l'Ancien Testament. Si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, lorsque Dieu a demandé à Moïse de faire un temple, il a dit il y aura des prêtres qui vont servir dans ce temple. Et il y aura le souverain sacrificateur qui sera le chef des prêtres. Et il portera sur sa poitrine un pectoral, une sorte de morceau de tissu. Et sur ce tissu seront mises des pierres précieuses, 12 pierres différentes, une pour chaque tribu. Et devinez quelle est la première et la dernière pierre. La jaspe et la sardoine. Sardoine première et jaspe dernière. Et en fait, en parlant de jaspe et de sardoine, il veut dire les 12 pierres. La première et la dernière, ça veut dire toutes les pierres. Et ça veut dire toutes les tribus d'Israël. Ça veut dire aussi que celui qui est sur le trône, c'est le souverain sacrificateur qui porte sur son cœur les pierres, tous ceux qui croient en lui. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est entré dans le ciel comme un souverain sacrificateur, non pas avec le sang des agneaux ou des boucs, mais avec son propre sang. Je sais, ça devient un petit peu compliqué quand on aborde ces parallèles, hein, mais vous pourrez regarder chez vous ou demander après le culte des détails là-dessus, mais il y a des symboles extraordinaires. La Bible dit que lorsque Dieu a donné le plan du temple à Moïse, ce plan était en fait une ombre de la réalité qui est dans le ciel. Et le souverain sacrificateur sur terre, c'était Christ. Et le sacrifice, l'agneau, c'était Christ. Les pains de proposition, c'était Christ. Le chandelier, c'était Christ. Tout était Christ. Tout symbolisait Christ dans le ciel. C'est Jean aussi qui a écrit dans sa lettre « Dieu est lumière ». Et je pense que ce qu'il a vu dans le ciel, c'est cette lumière d'une pureté, d'une blancheur inégalable. Et puis, verset 4, « Autour du trône, il voit 24 trônes. Sur ces trônes, 24 anciens, ce ne sont pas des vieillards comme nous le lisons dans la Bible Second, parce que c'était du vieux français. » Ce sont des anciens, donc c'est des hommes établis, des hommes qui représentent les autres, des hommes, des croyants. Et eux, ils sont sur des trônes aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est cette image? Ils voient un trône avec Dieu dessus, avec Christ en fait. Et ils voient 24 autres trônes, peut-être 12 de chaque côté, on ne sait pas. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Alors, il faut le rapprocher de Daniel, notre fameux parallèle, Daniel 7, versets 9 et 10. Et je lis. « Je regardais, dit Daniel, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours, c'est-à-dire Dieu, s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure, son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1 000 milliers le servaient, ce sont des anges, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » On a là un tribunal qui se met en place. Le juge, c'est Dieu. Il y a les anges qui sont en quelque sorte des spectateurs. Les anges qui ont vu la vie de chaque personne, qui nous connaissent bien, mais qui ne peuvent pas juger. Et puis vous avez les juges, les 24. Daniel ne parle pas de 24, mais c'est l'Apocalypse qui en parle. Et des livres furent ouverts. On verra plus tard dans l'Apocalypse que ces livres, c'est le livre de notre vie. Que lorsque Dieu va nous juger, va juger les hommes, pardon, il va ouvrir le livre de leur vie. Voilà ce que tu as fait tel jour. Voilà ce que tu as dit tel jour. Voilà ce que tu as pensé tel moment. Voilà le mal que tu as commis. Voilà le nombre de péchés total dans ta vie. Même si nous, on y pense un petit peu, si on s'arrête sur notre vie, on y réfléchit, on a commis des centaines de milliers de péchés, d'offenses à la loi de Dieu. Peut-être des millions même. Et des bonnes actions, combien on en a fait? des actions et des choses vraiment pures, vraiment justes, où Dieu peut dire, alors là, je n'ai rien à dire, c'est parfait. Tu as vraiment été parfait sur ce coup-là. Combien? S'il y en a une déjà, ce sera beau. On a peut-être fait une vingtaine de bonnes actions, vraiment bonnes, comparées aux millions de péchés. Et ça va être révélé au ciel, devant des millions d'anges. Ça va être un moment très difficile pour ceux qui vont être jugés. Hein. Très, très difficile. Parce que là, on ne pourra pas dire, oui, mais vous ne connaissez pas ma situation, ma famille, ma blablabla. Non. On n'est pas en train de regarder ta famille, on est en train de regarder ta vie. Tes pensées, tes actions, tes paroles. Voilà des faits. Boum, boum, boum. Et la Bible dit que toute bouche sera fermée. Parce que le jugement sera implacable, sera incontournable. Ces 24 anciens, qui sont-ils? Eh bien, on ne peut pas dire avec certitude, on sait que ce sont des êtres humains. Ils ont des couronnes de vainqueurs, parce qu'il y a deux mots dans le grec pour dire couronne, et là c'est les couronnes de vainqueurs et non pas les couronnes de rois. Ils ont vaincu quoi? Eh bien, on peut voir dans l'Apocalypse, il y a ceux qui vainquent Satan et le mal par le sang de Jésus-Christ. Donc c'est certainement des croyants. Et c'est certainement des croyants parce que, écoutez cette parole de Jésus en Matthieu 19, 28. « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. » Donc c'est vraiment la situation où nous sommes. « Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Les apôtres allaient juger les 12 tribus d'Israël, seraient assis sur 12 trônes. Et peut-être que ces 24 anciens, c'est les 12 apôtres de Christ et puis les 12 chef d'Israël. Après, ce sont des détails, on ne sait pas. Mais ce sont des hommes qui ont cru et qui vont être établis pour juger avec Christ. Nous allons juger le monde avec Christ. Mais on se dit, mais qui suis-je? Moi, je suis un pécheur comme tout le monde. Je ne suis pas meilleur que les autres. Oui, mais j'ai été racheté, j'ai été pardonné. Et Christ va me prendre avec lui et je vais juger le monde avec lui. Il me donnera sa sagesse et son autorité pour juger le monde. Verset 5 d'Apocalypse, « Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. » Ça nous fait penser au livre de l'Exode. Lorsque Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï, la terre, la montagne, tout entière tremblait, il y avait des éclairs, du tonnerre, du feu. C'était lorsque la gloire de Dieu est venue là, cette gloire sainte qu'on ne peut pas supporter si on est pécheur. C'est l'idée de sainteté, de jugement. Mais il voit aussi devant le trône sept lampes ardentes qui brûlent, qui sont les sept esprits de Dieu. Ces sept esprits de Dieu, ça nous fait encore penser à Jésus-Christ. Si vous regardez Ésaïe chapitre 11, vous avez là les sept esprits de Dieu quelque part. Je vais vous le lire. Prophète Ésaïe chapitre 11. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et ce rameau, c'est le Messie hein, qui sort de David. Un rejeton naîtra de ses racines. Écoutez maintenant, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Sept esprits. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. Voyez encore le jugement, les sept esprits, Christ va juger le monde. Il aura cet esprit de sagesse, d'intelligence. Il ne va pas juger sur un oui-dire. Ça me fait penser à l'histoire de cet homme. Un père de famille, il avait un travail, une famille, tout allait bien. Et un jour, il y a un enfant qui dit « Cet homme m'a violé quand j'étais petit. » Une plainte arrive au tribunal, cet homme est emmené, menotté, en prison. Il est jugé et face au témoignage de cet enfant, Il a beau dire, mais c'est faux, j'ai jamais fait une chose pareille, je suis père de famille, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas pédophile. Les juges ont dit, non, non, tu es certainement coupable. Pendant le procès, qui a duré longtemps, enfin, le temps entre le procès, etc., il était en prison, il a perdu son travail, sa femme l'a quitté, ses enfants l'ont rejeté. Il a fait des tentatives de suicide. Finalement, un jour, quelqu'un a découvert que cet enfant avait menti. Et en fait, cet enfant n'avait pas menti consciemment, c'était un psychologue qui lui avait fait une séance d'hypnose. Et ce psychologue était fasciné par la pédophilie et les choses comme ça, et il lui a induit des souvenirs d'inceste et de choses avec cet adulte que l'enfant n'avait jamais eu. Et c'est en devenant plus tard, hein, presque adulte, vers 22-23 ans, que cette jeune femme a dit non, cet homme ne m'a pas violée quand j'étais enfant. Et finalement, cet homme a pu être libéré, mais il avait tout perdu. Un oui-dire, je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Vous perdez votre réputation, votre famille, tout. Et on vous regarde, ah, c'est le pédophile. Vous imaginez toute votre vie. Mais Jésus ne jugera pas avec un oui-dire, avec de l'hypnose, il jugera avec droiture. Et c'est ça qui nous fait peur, en fait, c'est qu'il va vraiment regarder le fond, le tréfonds de notre être et de notre vie. Et puis, il y a, verset 6, devant le trône encore, après les sept esprits, les sept lampes, il y a comme une mer de verre semblable à du cristal. Jean essaie de nous décrire avec des choses connues ce qu'il voit. C'est évident que ce qu'il voit est indescriptible, n'est pas humain, c'est le ciel. Mais il essaie de mettre, bon, c'est comme une mer de verre. Alors imaginez cette étendue plate de cristal, comme un plateau de cristal sur des kilomètres carrés, des hectares et des hectares, devant le trône. Qu'est-ce que ça peut symboliser, cette étendue cristalline, transparente? Et plate. Pour moi, j'y vois deux choses. Il y en a peut-être plus, hein? Vous en verrez peut-être d'autres, mais déjà, il y a ce calme. Il n'y a pas de vagues, ce n'est pas une mer agitée, c'est une mer plate, cristalline. C'est le calme du jugement. Dieu ne juge pas dans la précipitation, il ne juge pas dans l'excitement, l'excitation ou l'énervement. Dieu juge dans le calme, dans la paix. C'est la paix de Dieu, là. Et puis, le côté transparent de cette mer, cristallin, c'est que c'est absolument transparent. Son jugement est transparent. Dieu ne juge pas avec un arrière-plan, avec une arrière-pensée, avec des motifs. Dieu juge de façon claire, transparente. Tu as fait ça, ma loi dit ça, tu es coupable. J'ai donné mon fils unique sur la croix pour toi, pour que tu sois sauvé. C'est ton seul moyen de salut. Et toi, tu as dit non, j'en veux pas. Tu t'es donc condamné. Le jugement est transparent. Tu es condamné. Parce que tu as refusé le seul moyen de salut. Mais ce qui est encore plus intéressant avec le tabernacle au temps de Moïse et le temple, c'est que dans le temple, il y avait une cuve d'airain, une cuve en bronze remplie d'eau, là où les prêtres se lavaient. Hein, ils se lavaient les mains, les bras, les jambes, avant d'officier. Et il y avait dans le lieu saint, un chandelier à combien de branches? Sept branches, avec sept lampes en fait. Hein? Sept lampes, la mer, d'ailleurs la cuve d'airain s'appelait la mer d'airain aussi, la mer de bronze. C'est encore une image du temple hein, qui est dans le ciel. C'est une image du jugement de Dieu, de la sagesse de Dieu, de l'omniscience, de l'omnipotence de Dieu et de la pureté auprès de Dieu. Et puis après, on arrive à la fin du chapitre où on voit les quatre êtres vivants. Alors là, pour le néophyte, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On dit jusque-là, c'était compliqué, mais quand je vois les quatre êtres vivants, je vais lire verset 7 d'Apocalypse 4. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui vient, qui est et qui vient. Là, il faut connaître la Bible. D'abord, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, Ésaïe a une vision du trône de Dieu, encore une fois, comme Jean, et il voit des séraphins, il les appelle comme ça les séraphims en hébreu, ces anges avec six ailes, deux pour se cacher la face, deux pour se cacher les pieds et deux pour voler. C'est l'image de l'humilité des anges qui se cachent devant la gloire de Dieu. Et ces séraphins, eh bien, crient devant le trône, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la Trinité est sainte, hein. Saint est Dieu le Père, Saint est Dieu le Fils, Saint est Dieu le Saint-Esprit. » La sainteté absolue qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et puis c'est dans le prophète Ézéchiel au chapitre 1 qu'on retrouve ces anges devant le trône de Dieu. Alors dans Ézéchiel, c'est encore plus étonnant parce que vous avez des roues, vous avez le trône à des roues et avec des yeux, il y a des yeux partout. Les yeux partout, ça symbolise quoi? L'omniscience, que Dieu voit tout. Rien ne peut échapper à son regard, à ses yeux. Et puis, également, il y a les quatre visages là, le lion, le veau ou le bœuf, l'homme et l'aigle. Et là, c'est fascinant, c'est que ça parle encore de Christ. Le lion symbolise quoi? La royauté. Le veau ou le bœuf symbolise l'humilité, le service. L'homme symbolise l'humanité et l'aigle symbolise la divinité, parce que Dieu est comparé à un aigle qui vient avec ses ailes sur son peuple. Ces quatre visages sont quatre aspects de Jésus-Christ. L'évangile de Matthieu présente Jésus-Christ comme le roi, le lion. L'évangile de Marc présente Jésus-Christ comme le serviteur parfait, le bœuf. Et c'est vrai, c'est constant tout au long de l'évangile de Marc, hein. L'évangile de Luc nous présente au contraire l'humanité de Christ. On voit sa naissance qui est décrite en détail, etc. L'homme. Et l'évangile selon Jean nous présente Christ comme fils de Dieu, sa divinité. Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le fils de Dieu. Dieu, l'aigle. Ces quatre anges sont les quatre évangiles, sont les quatre facettes de Christ. Quatre en plus dans la Bible, c'est le symbole de la terre et de l'action de Dieu sur la terre. Partout, ça c'est aussi, on retrouve ça dans la Bible, le chiffre 4. Et Jésus, c'est l'action parfaite de Dieu sur la terre. C'est que Dieu est venu sur la terre nous sauver, nous racheter. Je vous avais dit que ça allait être un petit peu difficile parfois, mais quand on explique la Bible avec la Bible, les choses s'éclairent. Et je peux vous dire, ça fait 25 ans que j'étudie la Bible et je suis loin d'avoir tout compris encore. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que je vous dis maintenant. Ne soyez pas découragés si vous dites « voilà, ça m'a complètement dépassé ». Vous y reviendrez un jour et vous verrez « ah oui, d'accord, les quatre évangiles, les quatre visages ». Christ est partout dans la Bible. Ces quatre êtres vivants aussi symbolisent quelque part tous les êtres vivants de la terre, puisqu'il y a les oiseaux, les quadrupèdes, l'homme. Et c'est cette idée que tous les êtres vivants glorifient le Seigneur, seront là au jour du jugement. Dieu va convoquer tout le monde, les anges, les animaux, les croyants, pour juger la terre. Il y aura du public, hein, dans le prétoire pour assister à ce jugement. Et pourquoi tout le monde sera convoqué à ce jugement? Parce que ce jugement sera quand même merveilleux d'une certaine façon. Merveilleux parce que c'est enfin le mal qui est vaincu. Enfin le mal est enlevé de la terre. L'influence satanique, la corruption, tout cela va être jugé et purifié une fois pour toutes, à jamais. Et Dieu refera une nouvelle terre. Bien souvent, hein, nous crions après la justice. C'est Jésus dans le sermon sur la montagne qui a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Est-ce que vous avez faim et soif de justice? Sachez que le jugement doit commencer par vous-même. Il faut d'abord se juger soi-même, dire oui, je suis coupable devant la loi de Dieu, je suis pécheur, mais Seigneur, je demande ta grâce. Aujourd'hui, le trône du jugement n'est toujours pas installé dans le ciel. Ça, c'est futur, ce qu'on a vu. On ne sait pas quand il va être placé. Bientôt, peut-être. Mais pour l'instant, nous avons le trône, la Bible l'appelle le trône de la grâce, en Hébreux 4, verset 16. Et il dit, approchez-vous du trône de la grâce. C'est le trône où Dieu nous fait grâce, nous pardonne. Combien c'est merveilleux d'avoir cette chance, cette opportunité d'être pardonné. La Bible et la foi chrétienne ne sont pas là pour nous culpabiliser, elles sont là pour nous enlever la culpabilité et nous dire, tu peux être pardonné et sauvé. Et de savoir qu'on ne sera pas jugé, pour moi, c'est la plus belle nouvelle de ma vie. Lorsque je vais mourir, je ne vais pas comparaître devant le jugement parce que je suis sauvé. C'est ça que ça veut dire être sauvé. Sauvé de ce jugement qui va venir. La terre est mûre pour le jugement et ceux qui appartiennent au Seigneur y échapperont parce qu'ils seront enlevés avant. Si ce matin, il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas sauvé, vous ne pouvez pas dire, moi je suis sauvé, j'échapperai au jugement. C'est le moment de vous juger vous-même, de vous repentir et de laisser Christ vous sauver. Mettre sa justice dans votre cœur, sa perfection, sa pureté. Et nous qui connaissons déjà le Seigneur, on doit apprendre à connaître mieux ce Dieu vivant. On se rend compte qu'on ne le connaît pas bien. Cet être parfait, omniscient, omnipotent qui est dans le ciel. Apprenons à l'adorer, à le connaître, à le louer. Nous serons avec lui ce jour-là, à côté du trône. Ce sera une victoire sur le mal, ce sera merveilleux. Peut-être un des plus beaux jours de notre vie. De contempler depuis le ciel la perfection de Dieu. Prions.